Il est exactement 13 heures à Beni, dans le Nord Kivu, et 12 heures à Lemba, à Kinshasa. C'est l'heure de nous informer. À la présentation, Blaise Shindani Kambala.
Radio Kapi.
D'abord, l'ossature de ce journal. Le pourparler entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 reprennent cette semaine au Qatar. Sur son compte X, Mossad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, affirme que les États-Unis saluent la poursuite des négociations entre la RDC et l'AFC M23, facilitées par le Qatar. En Ituri, le comité des déplacés victimes de conflits armés installés sur le site de Loda plaide pour l'implantation d'une position de casque bleu afin de faire face aux attaques récurrentes du groupe armé Codeco. Ce site, qui abrite actuellement plus de 1000 ménages, n'est protégé par aucune force régulière, déplore les présidents du comité des déplacés. L'entreprise CyberDev a organisé il y a 2 semaines une conférence sur la cybersécurité à Kinshasa. Invité de Radio Kapi ce vendredi, le président directeur général de cette société, Nezim Panzou, appelle à la vigilance face aux connexions gratuites afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Encore une fois, bonjour à tous. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 reprennent cette semaine au Qatar. Selon des sources proches des négociations, les délégations des deux parties sont déjà sur place à Doha. Des détails avec Martial Papimoukeba.
La délégation de l'AFC M23 dépêchée à Doha est essentiellement technique. D'après nos sources, la rébellion souhaite d'abord examiner les dispositions pratiques liées à la mise en œuvre du cessez-le-feu et à la libération des prisonniers conformément à la déclaration de principe signée avec le gouvernement congolais. Du côté de Kinshasa, aucune information n'a filtré quant à la composition de sa délégation. En parallèle, avant leur arrivée à Doha, la médiation a transmis aux deux parties un projet d'accord de paix global. Sur son compte X, Mossad Boulos, conseiller spécial de Donald Trump pour l'Afrique, salue la reprise des négociations RDC-AFC M23 facilitées par les Qatar. Selon lui, ces pourparlers, basés sur la déclaration des principes de juillet, sont essentiels pour un accord de paix et la protection des communautés. Les États-Unis appellent à cesser immédiatement les violences contre les civils et à respecter les engagements pris pour la paix et la stabilité. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Entre-temps, la République démocratique du Congo dispose depuis le 1er juillet 2025 d'une loi portant sur la programmation de la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise promulguée par le président de la République. Le président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale s'en réjouit et appelle à un engagement fort de la part du gouvernement afin de faire de ces textes un levier essentiel pour le bon fonctionnement et l'efficacité de la police. Rubens Mikindo s'exprime à ce sujet au micro de Ronelline Tibonera.
S'il y a déjà la volonté politique, cette loi, en tout cas, sera mise en œuvre. Et moi, j'ai la ferme conviction que ça va passer. Vous savez que cette loi nous demande plus ou moins mobiliser 2,5 milliards de dollars, ce qui n'est pas un grand problème pour le pays, d'autant plus que c'est parmi les priorités que nous avons dans ce pays. La session prochaine, elle va commencer. C'est pourquoi nous avons souhaité déjà que cette loi soit insérée dans le programme. C'est pourquoi nous, c'est déjà la sensibilisation auprès du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités.
Pour rappel, cette loi prévoit notamment la construction des 1046 commissariats de police dans les entités territoriales décentralisées, l'opérationnalisation de l'industrie de la police pour la production d'équipements et autres accessoires. Le comité des déplacés de Loda en territoire de Djougou plaide pour l'installation d'une position de casque bleu de la MONUSCO sur les sites de Loda afin de faire face aux attaques récurrentes du groupe armé Codeco. Depuis mai 2023, ces attaques ont déjà coûté la vie à 22 personnes. La demande a été formulée mercredi dernier à l'occasion de la visite du commandant de la force onusienne dans la zone. Les points avec Jean-Claude Lokidile qui était sur place.
Le site de l'ODA, qui abrite actuellement plus de 6000 personnes, n'est protégé par aucune force régulière. Un vide sécuritaire qui expose les habitants aux attaques de miliciens. Safari Malo, président du comité des déplacés.
Vous allez voir ensemble avec nous que UPDF se retrouve très loin à Fatak. Et la FARDC aussi à Fatak. Et encore la MONUSCO vers ses côtés aussi. Et imaginez que, qu'est-ce qui peut se faire dans l'autre état. C'est ça, c'est que on nous recommande que la MONUSCO puisse être installée ici. Avec nous.
Face à cette requête, le commandant des casques bleus, le général Ulysses de Mesquita Gomesh, a reconnu les limites de la mission en termes de moyens humains. Toutefois, il a promis de capitaliser les forces disponibles pour renforcer la protection des populations déplacées.
Nous aimerions bien pouvoir rester avec vous en permanence. Cependant, cela n'est pas possible. Nous sommes limités par les moyens. C'est pourquoi nous organisons des patrouilles afin de montrer notre présence et de protéger non seulement vous, mais aussi les autres populations.
Le général Ulysses de Mesquita Gomesh a également appelé à la synergie entre la MONUSCO, les FARDC, la police et les autorités locales afin d'assurer une bonne protection aux victimes des violences perpétrées par des groupes armés dans la région. De retour des Fataki, Jean-Claude Lucky, d'Ile Radio Kapi.
Ituri toujours, deux enfants ont été tués mercredi soir lors d'une attaque des rebelles ADF à Bandikidé dans la chefferie de Banyali Tchabi, territoire d'Irumu. Selon le vice-président de la communauté locale, les victimes ont été atteintes par balles au cours de l'incursion. Les assaillants ont également incendié plusieurs habitations, rapporte Richard Balengiliao. Face à cette attaque, de nombreux habitants ont fui pour se réfugier auprès des bases de la MONUSCO et des militaires ougandais déployés dans la région. Ce drame survient moins d'une semaine après une autre attaque des ADF à Boussio, toujours dans la même chefferie où 5 personnes avaient trouvé la mort et des maisons avaient été incendiées. Au Nord Kivu, la radio communautaire SAC FM émettant sur la fréquence 105.4 MHz à partir de la cité de SAC en territoire de Masisi connaît d'énormes difficultés pour son fonctionnement. Une situation qui dure depuis près de 3 ans maintenant. Pour se soustraire aux retombées directes des affrontements armés dans le groupement Kamuronza, le responsable de cette radio avait réussi à se déplacer avec le matériel nécessaire jusqu'à Goma. La radio SAC FM a diffusé en faveur des familles déplacées internes qui étaient dans tous les sites érigés au quartier Mugunga. De retour à Sake, après l'occupation de la ville de Goma par la rébellion du M23, le responsable de ces médias n'a rien retrouvé du reste du matériel de la radio. Le studio de diffusion a été vandalisé et tous les effets emportés. Ismaël Matungulu, directeur des programmes de la radio communautaire Sake FM, sollicite une assistance pour la reconstitution de ces médias. Suivez-les.
Nous avons laissé tous les matériels nécessaires de la radio, notamment il y avait des ordinateurs, des appareils à enregistrer. On a rencontré, en tout cas, le studio a été vandalisé. Également, ma maison a été aussi détruite. Nous utilisons surtout notre émetteur que nous sommes déplacés vers Mugunga. Nous utilisons avec les petits mixeurs et les petits générateurs. Pour le moment, nous travaillons avec 7 journalistes et parmi ces 7 journalistes, 3, ils ont déjà abandonné la radio SAC FM à cause de manque de matériel. C'est pour cela qu'on est en train de demander une aide aux organisations qui interviennent dans les domaines des médias de nous aider avec quelques matériels nécessaires, notamment les ordinateurs qui peuvent traiter les informations récoltées au sein de la population du Kamuronza, parce que c'est les radios qui émettent à ça que... C'est pour cela que nous lançons NSOS aux partenaires, comment voir construire également notre ancien studio de la radio communautaire SAC FM.
Dans le même registre, l'ONG Journaliste en danger, JED, une organisation œuvrant pour la liberté de la presse, exprime sa vive préoccupation face aux menaces de fermeture de certains médias à Bukavu proférées par la rébellion M23 AFC. Dans un communiqué publié ce jeudi, JED rappelle que l'accès à l'information est un droit fondamental tout en dénonçant les intimidations visant à museler la presse locale. Ronéline Tibonera a lu ce communiqué pour nous et en propose. Pose, c'est condensé.
Selon Journaliste en danger qui s'appuie sur des informations recueillies auprès des sources à Bukavu, les menaces ont été proférées lundi lors d'une rencontre avec les responsables des médias. Lors de cette réunion, les médias opérant dans la zone ont été sommés de se conformer aux nouvelles dispositions imposées par la rébellion dans les secteurs de l'information et de la communication. Dans un contexte économique déjà difficile, GED révèle que les médias ont été contraints de payer des redevances aux autorités de facto. Parmi les taxes exigées figurent la redevance annuelle fixée à 250, l'autorisation de fonctionnement des 100 dollars, l'assignation des fréquences, 200 dollars pour la radio et 400 dollars pour la télé. Toujours selon GED, ce cadre de la rébellion a averti que tout média qui refuserait de se soumettre à ces exigences s'exposerait à une fermeture immédiate. Les professionnels des médias ont également reçu l'ordre de ne pas diffuser d'informations valorisant le pouvoir de Kinshasa, le FARDC ou l'Irzali Ouazalendo, une ingérence jugée inacceptable et illégale par GED. L'organisation appelle les responsables de la rébellion à retirer ces mesures qu'elle qualifie de coercitives et invite les médias à se mobiliser contre cette atteinte grave à la liberté de la presse.
Un mot sur l'agriculture dans ce journal. 5000 ménages de Kindu, dont l'Emaniema bénéficient depuis ce jeudi de 900 tonnes de semences. Cette dotation est du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR, avec le financement de ses partenaires. Elle est constituée de plusieurs variétés, dont le maïs, le riz, l'arachide, les soja et les boutures de manioc. Une grande satisfaction pour les agriculteurs et l'autorité provinciale qui estime qu'à l'allure où vont les choses, la province pourra s'autosuffire en semences agricoles. Les détails avec Florence Kizalunga.
Selon les coordonnateurs du PADRIR, ces semences agricoles proviennent des agrumultiplicateurs et de l'Institut national pour l'étude et la recherche agronomique INERA Saloubezia qui avait réussi de PADRIR les semences de base. Avec cette nouvelle dotation, les bénéficiaires espèrent améliorer leur production, comme l'indique l'ingénieur Augustin Moulongoi de l'INERA Saloubezia.
Au nom de tous les bénéficiaires, nous tenons à remercier à haute voix le programme PADRIR. Les catégories de semences reçues par PADRIR va nous permettre de pouvoir booster la filière semencière de la province parce que ça va nous permettre de pouvoir augmenter la production. Tous les opérateurs semenciers seront servis à travers les semences que nous avons reçues du projet PADRIR.
Le coordonnateur national du PADRIR demande aux ménages de s'approprier ces programmes. Muteba Kalala.
Lorsque les semences sont données aux ménages, ce n'est pas pour la consommation. Donc nous attendons les ménages d'abord qui s'approprient de ce que nous sommes en train de faire, qu'ils comprennent le sens de ces dotations et qu'ils les utilisent. C'est pourquoi ils sont encadrés par des services étatiques pour que l'objectif que les PADRIR visent se matérialise dans ces ménages-là.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Province du Congo central, avant d'aller plus loin, polémique autour du site Kinkanda Safari, opposant les maraîchers de la ville de Matadi et les diocèses de cette même ville. Et cela dure depuis bientôt 2 ans. Dans une lettre envoyée aux autorités provinciales, l'association des maraîchers de la ville portuaire accuse les diocèses de s'emparer du site qui leur permet de planter les légumes. L'association des maraîchers de Kinkanda renseigne qu'elle a acquis régulièrement ces terrains depuis 1976. Allégation rejetée par les diocèses de Matadi. Le président du bureau juridique de cet archidiocèse affirme que ce terrain appartient à l'église depuis longtemps. Nana Plurich Mambou.
Dans leur correspondance adressée aux autorités provinciales, l'association des maraîchers de Matadi affirme être victime de la destruction de ses cultures, des séquestrations de son site, d'arrestations arbitraires et du déguerpissement de Kinkanda Safari de la part du diocèse de Matadi. Et pourtant, Amaki affirme posséder et occuper ce site depuis octobre 1976 après l'avoir acquis par des voies légales. Dans ses documents, l'association des maraîchers indique qu'à cette époque, il n'y avait pas de problème et cela leur permettait de bien mener leurs activités en alimentant en abondance la ville de Matadi en légumes. Tous les problèmes ont commencé selon les maraîchers lorsque le diocèse de Matadi a acquis ses terrains de 67 hectares après l'avoir sollicité auprès du gouverneur de l'époque. D'après Florent Floribert Diband Kavulu, coordonnateur de la Maki, le diocèse de Matadi agit en complicité avec l'ancien conservateur après lui avoir livré un certificat qui viole la loi foncière. En réaction, le diocèse de Matadi à travers son président du bureau juridique, affirme que c'est le droit qui a été dit sur cette question, car l'église a eu ses terrains depuis longtemps et possède tous les documents. Entre-temps, cette situation plonge aujourd'hui plus de 50 familles de Guerpi dans des difficultés, puisqu'elles sont incapables de nourrir, de soigner et de faire étudier leurs proches. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La saison des pluies se poursuit au Niger et comme chaque année, le pays connaît plusieurs semaines de précipitations qui s'accompagnent régulièrement d'inondations. Si elles durent jusqu'en octobre, les bilans officiels communiqués par les autorités est important, avec une cinquantaine de morts jusqu'ici, mais loin de celui de 2024, les inondations avaient fait plus de 1,5 million de sinistrés. Au Kenya, les femmes peinent à se faire une place en politique. Elles occupent seulement 23% des sièges à l'Assemblée nationale et 31% au Sénat. Pour comprendre les obstacles et encourager leur représentation, l'ONG Social Justice League a lancé une campagne sexisme, agression, intimidation, mais aussi manque de moyens financiers. Celle qui se lance dénonce un parcours semé d'embûches.
L'invité.
L'entreprise CyberDev a organisé il y a 2 semaines une conférence sur la cybersécurité à Kinshasa. Invité des radios Capi ce vendredi, le président directeur général de cette société, Nezim Panzou, appelle à la vigilance face aux connexions gratuites afin de se prémunir contre la cybercriminalité. Il conseille également aux internautes d'éviter d'ouvrir les messages provenant d'adresses inconnues. Nezim Panzou recommande en outre aux autorités de la RDC de mettre en place une cybersécurité robuste, capable de retracer tout ce qui s'adonne à ces pratiques en vue de les traduire en justice. Il répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Nezi Mpanzou.
Bonjour Monsieur Blaise.
Plusieurs entreprises, plusieurs institutions privées comme publiques, voire même des personnalités font face à la cybercriminalité. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cette terminologie cybercriminalité?
Donc, la cybercriminalité, c'est en fait la technologie qui est mise en place pour en fait détruire les institutions, détruire les entreprises, voler les données, détruire les systèmes informatiques mis en place d'une société, d'une nation. Et elle a comme principe de détruire trois choses, l'intégrité des données, c'est-à-dire que les données sont changées, elles ne sont pas ce qu'elles devraient être, la confidentialité des données, c'est-à-dire que celui qui a accès aux données n'est pas le seul qui en a accès, d'autres personnes arrivent à avoir accès à des données qui sont confidentielles, c'est une manière de faire en sorte que les données ne soient pas disponibles, ne soient pas à notre disposition lorsqu'on en a besoin.
Est-ce qu'il y a-t-il des astuces pour déceler un cybercriminel?
Oui, il y a des astuces, par exemple, lorsque vous allez dans un lieu public comme dans un aéroport et que vous voyez une connexion ouverte qui peut-être n'a pas de nom, qui ne porte même pas le nom de cet aéroport-là, il faut être prudent parce que ça peut être un cybercriminel qui essaye de voir tout celui qui sera connecté dans ce Wi-Fi-là pour pouvoir avoir les données. Parce que ces données-là, ce sont des échanges qui sont faits entre un ordinateur et un serveur. Alors, lorsque vous allez peut-être sur google.com, vous envoyez vos données en fait. Vous envoyez votre adresse IP, vous envoyez les logiciels que vous avez, les accès que vous avez lorsque vous enregistrez peut-être dans un site internet. Et si ce Wi-Fi-là n'est pas sécurisé, celui qui a mis cela en place sera capable de vous le ravoir. Il y a aussi, par exemple, le phishing. On vous envoie un email dont vous ne connaissez pas la source et qui vous dit « Hey, cliquez ici, vous avez gagné 1 000 $ ». Si vous cliquez là sans vérifier exactement la source de ce mail-là, vous avez été attaqué. Ou un site internet qui ne porte vraiment pas le nom de votre entreprise. Par exemple, j'en ai l'exemple, au lieu que ce soit okapi.com, vous voyez okap et le i, on remplace avec un l. Si vous n'êtes pas prudent, vous pensez que c'est okapi, vous cliquez là-bas alors que ça a été mis par un hacker et il arrive à avoir accès à vos données personnelles. Voilà quelques astuces pour déceler que vous avez une atteinte d'attaque.
Quelles sont les conséquences de la cybercriminalité sur les plans économiques, sociaux, voire politiques?
Les conséquences sont vraiment dévastatrices. Par exemple, l'entreprise où je travaille, T-Mobile, nous avons eu des millions d'essais d'attaques. Mais si une seule attaque arrive à ses fins, c'est plus de 10 millions de dollars que nous perdons parce que ça sera une poursuite judiciaire. Vous savez, un utilisateur peut nous poursuivre pour ne pas avoir sécurisé ses données. Si ces données arrivent dans les mains d'un hacker et que ce hacker-là arrive à trouver son adresse, l'adresse de sa femme, de ses enfants et toutes ses données bancaires, mais cet utilisateur va porter plainte dans les poursuites légales, l'entreprise doit payer. Donc vous voyez que c'est une perte économique, c'est aussi une perte dans la réputation de l'entreprise. Si vous êtes réputé comme étant faible en matière de défense de cybersécurité, vous perdez des clients, vous perdez de l'argent, vous perdez des opportunités. Il y a aussi seulement la réputation de la personne elle-même. Quelqu'un peut avoir avoir accès à vos données et commence à publier des contenus qui ne sont pas décents, ça atteint à votre propre morale et à votre personnalité.
Est-ce qu'il y a-t-il moyen de traîner un cybercriminel devant les cours et tribunaux?
Bien sûr, il y a moyen de le faire. Voilà pourquoi je salue vraiment les avancées qu'il y a en RDC par rapport aux lois numériques, par rapport à la Commission nationale de la cybersécurité. Pour arriver à retracer en fait un hacker, il faut avoir les technologies qui sont capables de le faire. Voilà pourquoi nous lançons ce cri d'alerte-là aux autorités de ce pays, de se pencher à ce que nous proposons, non seulement pour les institutions, mais pour les entreprises, avec une technologie en place et une cybersécurité bien définie, une architecture sécurité solide. Nous pouvons retracer tout celui qui essaye de nous causer du tort, et puis nous pouvons facilement les traîner à la justice.
Alors, quelles sont ces différentes technologies, si vous pouvez les citer?
Je peux vous donner quelques exemples. Nous avons ce qu'on appelle des firewalls. Des firewalls, c'est simplement des régulateurs, régulateurs des trafics Internet. C'est-à-dire que je peux me décider aujourd'hui de bloquer une telle partie de la population, une telle partie du pays, de ne pas accéder à mes sites Internet, peut-être parce que cette partie du pays est déjà sur les mains des adversaires, dont nous bloquons toute atteinte qui vient de ce côté-là. Nous pouvons aussi réserver, on appelle ça des whitelists, c'est-à-dire que je peux prendre juste certains ordinateurs ou certaines personnes qui peuvent avoir accès pour vraiment être sûr que ceux qui ont accès à nos données sont seulement ceux-là qui devraient avoir accès. Donc, nous pouvons aussi avoir ce qu'on appelle des endpoint protection, qui est beaucoup plus connu sous le nom de antivirus. Nous mettons des antivirus dans nos ordinateurs qui analysent les comportements, les données, les entrées, les navigateurs et tout cela, et nous provient lorsqu'il y a quelque chose de louche qui vous...
Monsieur Nezi Mpanzu, nous vous disons merci.
Merci à vous, monsieur.
C'était notre invité Nezi Mpanzu, expert en cybercriminalité. Il s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda, et voilà qui met fin à notre grande édition du journal Parler de la mi-journée, coordonnée et supervisée par Jean-Gandouka Bongo et mise en onde par Billy Landry Betou. Ces informations sont disponibles sur nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix. Merci de nous avoir suivis.